à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 18h, temps universel, dans 5 minutes à votre avis avec Raïssa Girondin. Le Malien Mamoudou Gassama est devenu un héros en France. Qu'en pensez-vous? Mais tout d'abord, les nouvelles. On commence par le dossier nord-coréen. Intensification des préparatifs en vue d'un sommet historique entre le président américain Donald Trump et le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un. Un proche collaborateur du dirigeant nord-coréen effectue une rare visite aux États-Unis et sera reçu aujourd'hui par le chef de la diplomatie américaine. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Le général Kim Jong-il est attendu à New York pour des discussions avec le secrétaire d'État Mike Pompeo. Ils vont tenter de se mettre d'accord sur un ordre du jour pour le sommet du 12 juin à Singapour. Washington réclame une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible. Pyongyang accepte d'en parler mais refuse qu'elle soit unilatérale. La venue du général aux États-Unis est une première en 18 ans pour un leader nord-coréen. Cet ancien chef espion a été aux avant-postes de la détente en cours. Vice-président du comité central du parti au pouvoir, il s'est rendu aux Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud et il a accompagné deux fois Kim Jong-un en Chine. Outre les discussions de New York, des délégations des deux pays se rencontrent à Panmunjom, dans la zone démilitarisée, et aussi à Singapour pour parler de la logistique du sommet. De son côté, Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, se rend demain à Pyongyang, alors que le premier ministre japonais Shinzo Abe rencontre Mike Pompeo le 6 juin à Washington et sera reçu le lendemain à la Maison Blanche.
Relation Guinée-Équatoriale-France, la Cour internationale de justice rendra le 6 juin son arrêt dans le contentieux opposant Paris à Malabo, qui accuse le gouvernement français d'avoir violé l'immunité diplomatique du fils du président équato-guinéen. Les relations entre les deux pays sont tendues depuis que la justice française a condamné Théodorine Obiang, fils du président Théodoro Obiang et lui-même vice-président équato-guinéen, a accusé en France d'avoir pillé les caisses de l'État et acheté des propriétés somptueuses dans les endroits les plus chers du monde, y compris à Paris. La sentence infligée en octobre dernier, 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende également avec sursis dans cette affaire dite des biens mal acquis. Théodorine Obiang était jugée depuis 2016 devant le tribunal correctionnel de Paris. Qualifiant cette affaire de violation de l'immunité de son vice-président, la Guinée équatoriale avait demandé à la Cour internationale de justice de suspendre le procès. La France a rétorqué que la Cour n'était pas compétente dans ce domaine.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Nigeria, l'ancien gouverneur de l'État de Taraba dans le nord-est du pays a été condamné ce mercredi à 14 ans de prison pour corruption au terme d'un procès qui a duré plus d'une décennie. Joly Niamey a été reconnu coupable de 27 des 41 chefs d'accusation formulés contre lui devant la Haute Cour fédérale de la capitale Abuja, en conclusion d'une affaire qui avait commencé en mai 2007. Le juge Adebukola Banjoko a statué que l'ancien gouverneur s'était comporté comme un voleur avec une avidité débridée. Joly Niamey, un pasteur d'église, était accusé d'avoir pillé un total de quelque 1,6 milliard de naira, soit environ 12,5 millions d'euros, de fonds publics au cours de ses 8 années au pouvoir entre 1999 et 2007. Mali, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a effectué ce mercredi une visite à Mopti dans le centre du pays. Il s'est rendu au quartier général de la force conjointe du G5 Sahel, qui regroupe le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Tchad. Et il a félicité les militaires de cette force pour leur détermination à protéger les populations civiles. Le patron de l'ONU a promis de tout faire pour que le G5 Sahel dispose des ressources financières et matérielles nécessaires à son efficacité. Madagascar, l'opposition malgache a déposé devant la Haute Cour constitutionnelle une requête en déchéance visant 18 députés à qui elle reproche d'avoir rejoint les rangs du parti du président Iratsorak Mampian, un nouveau chapitre dans la crise politique qui secoue la grande île de l'océan Indien. Et pour terminer, le Zimbabwe organisera le 30 juillet les élections présidentielles et législatives, premier scrutin depuis la chute du président Robert Mugabe en novembre dernier. Le tout nouveau président Emmerson Mnangagwa sera le candidat de la ZANU-PF au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1980. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.